Je vais prier avant de laisser la place à Joël, qui va continuer avec. Je crois que c'est le sixième volet aujourd'hui, Joël, du thème du salut. Oh, notre Dieu, notre Père, je te remercie que tu ne nous as pas laissés seuls. Et que quand Jésus est rentré pour siéger à côté de toi, tu nous as envoyé un autre conseiller, Seigneur, pour nous aider, pour nous encourager, pour nous soutenir, Seigneur, et aussi pour nous aider à ouvrir notre intelligence, Seigneur, pour que nous puissions vraiment comprendre ta parole, Seigneur, ce que tu as envie de nous dire pour cette semaine, pour aujourd'hui. Donc, viens Saint-Esprit pour ouvrir notre intelligence, pour nous aider à vraiment comprendre ce que Joël a préparé pour nous ce matin, Seigneur, guidé par toi. Merci, Seigneur, pour ta présence glorieuse parmi nous ce matin. Amen. Joël, je te laisse la place.
Merci, Chris. Bonjour à tous. Comme Chris a bien dit, c'est le sixième volet. Il nous manque encore deux à part ceci. On fera une pause la semaine prochaine, mais on finira le 9 novembre. Alors, la semaine dernière, nous avons parlé du tabernacle et comment c'est une image de Christ pour nous aujourd'hui. Alors, on va revenir à quelque chose que j'avais sauté sans vouloir et que c'est très important pour nous, pour notre vie et personnelle. Mais avant, simplement une petite illustration pour nous mettre pour comprendre bien. Évidemment, on est plus proche à Noël aujourd'hui qu'hier. Et chaque Noël, évidemment, les enfants, ils entendent voir quelque chose sous l'arbre. Soit un paquet grand ou petit, pour quelque chose qui est marqué avec leur nom. Et souvent, pour les plus petits, et c'est quoi? C'est un jouet, n'est-ce pas? Et quand ils s'ouvrent et voient ces nouveaux jouets, ils vont rester avec ce jouet pendant des heures et des heures et des heures. Bon, quelques-uns, pas tous. Mais je sais que ma fille, Anaëlle, la plus petite, elle peut passer des heures et des heures et des heures avec un seul truc. Et même si c'est nouveau. Donc elle prend le temps pour le connaître, pour voir comment elle peut le défaire. Des fois, elle le jette contre le mur pour voir si ça défait tout seul. Elle essaie de voir comment l'utiliser pour, voilà, simplement parce que sa curiosité la pousse à cela. Alors, quand Christ nous a donné son salut, c'était un cadeau, c'est un don de Dieu. Nous avons reçu ce cadeau de Dieu, on l'a ouvert, et on a quoi? On a eu quoi? La vie éternelle. C'est fantastique. On ne peut pas la jeter contre le mur. Merci Seigneur. Mais on peut commencer à la connaître, on peut dire qu'est-ce que ça veut dire être sauvé? Comment je peux appliquer tout ce que ça vient des dons? 2 Corinthiens 5, 17. Si vous avez vos Bibles. Donc on tient 5 et 7, et de là on va partir sur le thème d'aujourd'hui. 2 Corinthiens 5, 17. Puis je pense que plusieurs d'entre vous le connaissez par cœur, ce verset. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Dit ceci, je lis de la version Louis II. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Aujourd'hui, on ne va pas s'arrêter à parler de la vie chrétienne, on le fera plus tard. D'accord? On va parler aujourd'hui de qu'est-ce que ça veut dire dans le domaine céleste et pour nous, être une nouvelle création. En premier, le chrétien est habité par Dieu. L'Esprit Saint vient comme Christ vient de dire quand on reçoit cette, quand on accepte Dieu comme sauveur, l'Esprit Saint de Dieu vient habiter en nous. Après, si vous voulez approfondir, on peut dire que quoi? Dans l'Ancien Testament, on voit que l'Esprit Saint, la présence de Dieu, venait sur la personne, mais pas, n'était pas dans la personne. Si vous voyez l'exemple de Samson, qu'il y avait un moment où l'Esprit de Dieu venait sur lui, pour un moment spécifique, il a donné beaucoup de forces physiques pour faire des choses qui l'Éternel avait déjà prévues. Mais après, ça s'est marqué que l'Esprit de Dieu partait. Et là, la promesse de Jésus, il dit quoi? Il viendra en vous. Et Christ vient de le lire aujourd'hui, avant moi, dans le livre de Luc. Alors, Romains chapitre 5, verset 5. Romains 5, verset 5, dit ceci. Or, Romains 5, 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, l'apôtre Paul, il parle à l'Église à Rome. Donc, il parle à chrétiens. Il parle aux personnes qui s'étaient déjà sauvées, comme ce matin, je crois. Donc, si nous sommes sauvés, la Bible dit quoi? Que l'Esprit Saint vient habiter sur nous. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que se passe quand le Saint-Esprit vient habiter en nous? Simplement, si vous voulez noter la référence, 1 Corinthiens 3, 16 dit ceci. Ne savez-vous que vous êtes le temple de Dieu? Est-ce que l'Esprit de Dieu habite en vous? Le chrétien, effacé, quand ses péchés sont effacés, il est déjà conditionné pour être un temple de Dieu. Un temple de Dieu, en esprit. Alors, dans le même livre, en Corinthiens, chapitre 6, verset 19, il y a quelque chose de plus important. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? L'Esprit Saint vient sur nous. On devient temple de Dieu, mais on devient quoi? Sa propriété. Quelqu'un a dit, Joël, dans la Bible, ça ne dit pas que je ne peux pas fumer. Et c'est vrai. Mais la Bible nous dit qu'on appartient à Dieu. C'est pas moi, c'est plus moi. Voyez la différence? Ça s'appelle une vérité biblique, un principe biblique. Est-ce que c'est mauvais de prendre un verre du vin? Non. Et moi, en France. Ça n'est plus loin que ça devient quelque chose d'incontrôlable. Et c'est là que Dieu n'a plus de contrôle sur moi, quand je prends le contrôle de moi-même. Alors, si le temple est propriété de Dieu, il y a quelque chose de très impressionnant que je veux vous partager. La présence trinitaire de Dieu dans le croyant. Alors, pourquoi je parle de la présence trinitaire? La Trinité, on parle de quoi? Dieu Père, Dieu Fils et Dieu le Saint-Esprit. D'accord? Alors, Dieu le Père est le Créateur, Dieu le Fils est le Sauveur, et Dieu le Saint-Esprit est le celui qui nous guide. Si le Saint-Esprit est Dieu, par conséquence logique, les trois personnes de la Trinité, vite au moins. Mais le ministère, attention au mot que j'utilise, le ministère du Saint-Esprit, c'est celui qui agit pour me pousser à aller vers Dieu, pour me pousser à changer, pour me pousser à regarder de la parole de Dieu. Le ministère de Dieu, le Fils, c'est d'être mon avocat auprès du Père. Pourquoi? Parce que chaque fois que nous, on pêche, Satan ou un démon est là pour dire, hey, regarde, regarde ton fils, regarde ta fille, qu'il fait. Mais Dieu l'a dit, le Père me dit qu'il n'a rien. Vous voyez? Il y a quelque chose de différent. On va le lire ensemble. Éphésiens 4, verset 6. On parle de la présence du Père dans notre vie. Éphésiens 4, verset 6. Un seul Dieu est Père de tous, qui est au-dessous de tout, et parmi tous, et en tous. On parle de Dieu et Père. On parle de Dieu le Père. D'accord? La présence du Père dans notre vie. La présence du Fils. Colossiens 1, verset 27. On va arriver bientôt avec François à ce verset. Colossiens 1, 27 dit ceci. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire. La présence du Père, la présence du Fils et la présence de l'Esprit-Saint qui vient de lire en 1 Corinthiens 6, 19. Ça, c'est pourquoi nous pouvons dire qu'on peut participer à sa nature divine. Dans 1 Pierre, 2 Pierre 1, 4. On peut participer de sa nature divine. Pourquoi? Parce que c'est lui qui habite en nous. Donc nous, on peut être capable de comprendre ce que Dieu veut pour nous. Alors, la Bible dit que quand on reçoit, quand on accepte, Dieu, on est baptisé dans le corps de Christ. On appelle, en façon théologique, le baptême de l'Esprit-Saint. Alors, je vais faire simplement une pause, petite pause, pour mettre simplement en garde des différentes choses qu'on peut entendre aujourd'hui. Dans la parole de Dieu, il n'existe pas une deuxième expérience de baptême de l'Esprit. Il n'est pas marqué. Ça fait une fois pour toutes dans le moment quand on accepte Dieu comme sauveur. C'est le moment où l'Esprit de Dieu nous amène, il nous place en Christ. Et quand il nous place en Christ, ça veut dire quoi? On est placé dans l'Église, dans le corps de l'Église. Le corps de Christ, c'est son Église. Il n'y a pas une deuxième expérience, la Bible ne le marque pas. 1 Corinthiens 12, 13 dit ceci. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul cœur, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. On vient de lire dans Éphésiens 4, verset 5, c'était un baptême. Pas deux baptêmes, pas des baptêmes, un baptême. Alors, que après l'Esprit Saint fasse que son fruit soit visible en nous, c'est son travail. Mais ça ne veut dire pas que je suis rebaptisé encore pour avoir des dons spirituels. C'est ce moment-là, quand on accepte Dieu, en premier, on est mis dans le corps de Christ. Deuxième, on reçoit des dons spirituels. Qu'est-ce qu'un don spirituel? C'est une capacité surnaturelle pour travailler ou pour servir dans l'Église. Dans le service, on a un don de miséricorde, on a un don d'enseignement. C'est quoi la différence avec talent? Le talent, c'est la chose avec laquelle je suis né. Une capacité personnelle. Le chant, le sport, et quelque chose de manuel. Dieu peut utiliser cela pour sa gloire, bien sûr. Mais quand on parle des dons spirituels, il y a des professeurs, il y a des enseignants, il y a des services de miséricorde, il y a des exhortations. Il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre. Mais pour le cadre de l'Église. Alors, et pour finir ma parenthèse de baptême du Saint-Esprit, venez avec moi à Romains 8, verset 9. C'est très important pour que vous l'ayez dans votre esprit. Il dit quoi? Romains 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si l'Esprit de Dieu habite en vous. Et ce n'est pas fini. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Il n'existe pas un deuxième baptême. Ou tu es déjà dans le corps de Christ, ou tu n'es pas. Il n'a pas d'autre choix. Bibliquement, il n'a pas d'autre choix. Donc, pourquoi je dis ça? Je ferme la parenthèse. Parce qu'il existe des doctrines qui parlent d'un deuxième baptême pour vraiment voir qu'on est chrétien. Désolé, je suis déjà sûr de mon salut. Je sais que Christ est mon sauveur et il se manifeste dans ma vie avec ce que lui m'a donné. Et je le mets au service de son Église. Mais il n'y a pas question d'avoir quelque chose de spectaculaire qui vient sur moi, qui me fasse trembler, qui me met par terre. Croyez-moi, j'ai vu des choses qui m'ont fait peur plus que de me approcher vers Dieu. Je ferme la parenthèse, sinon on peut aller loin dans les explications. Ce n'est pas mon but aujourd'hui. Alors, la présence du Saint-Esprit en moi, on l'avait parlé, et qu'on parlait de l'assurance de salut, il est le sceau de Dieu. C'est la garantie que quand Christ reviendra chercher son Église, on est tous ensemble avec lui. Ce sont tous les avantages d'être une nouvelle création. Alors, qu'est-ce que c'est autre chose que Dieu nous a donné avec ces nouvelles créations? Romains 6, déjà qu'on est là en Romains, on va aller à Romains 6, versets 3 et 4. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ, en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus même plante avec lui par la... j'allais trop loin. C'est jusqu'à verset 4, nous marchions dans cette nouveauté de vie. Ça veut dire quoi? La dimension de ma vie, la dimension de vivre doit changer complètement. Je ne vois les choses de même façon. Je ne peux pas le voir de même façon. Je ne peux pas faire face à un problème de la même façon que je faisais avant de connaître Christ. Sinon, il y a quelque chose qui cloche dans ma vie. Peut-être il y a un péché qui empêche vraiment de voir ce que Dieu veut pour moi. Alors, on parlait avec quelqu'un et on disait, on ne peut pas juger une personne en disant, lui, il n'est pas chrétien. Parce que nous, on n'est pas le Saint-Esprit. On ne voit pas le cœur. Donc, il faut faire attention. Les seuls qui connaissent l'intérieur de chacun, c'est Dieu. On peut avoir des suspicions, bien sûr, pour la façon comme la personne se comporte. Mais on ne peut pas dire, tu n'es pas chrétien à cause de ça. Non. Je peux dire, fais attention parce qu'il y a quelque chose qui cloche dans ta vie. Mais je ne peux pas être le juge comme ça parce que le seul juge, c'est qui? C'est selon la Bible, c'est Dieu. Alors, si on a été, et c'était une image qu'on était mort avec Christ et ressuscité avec lui, il y a quelque chose qu'on doit laisser. Il y a quelque chose qui doit rester sous la croix et mourir à la croix. Galates, le livre de Galates. Chapitre 6. Et on va rester un moment sur ce livre-là. Galates chapitre 6, verset 14. Pour ce qui me concerne, loin de ma pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Je crucifie le monde. Alors, qu'est-ce que ça veut crucifier au monde? Tout ce que ça me plaisait dans le monde, tous les désirs, toutes les choses que m'attachaient à ce monde, les amitiés qui me faisaient mal, les films, les conversations qui m'attachaient à ce monde, crucifié. Galates 2:20, on reste dans le même livre, Galates chapitre 2, verset 20. C'est fort parce que Paul le dit et c'est que lui, il vivait. Okay? J'étais crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Le moi est crucifié. C'est plus moi qui vis. On explique aux enfants de façon simple. Qu'est-ce que ça veut dire ces versets? Imaginez-vous deux cœurs. Un, la croix est en dehors du cœur et à l'intérieur du cœur, c'est marqué moi. De l'autre cœur, c'est l'inverse. La croix est à l'intérieur du cœur et le moi est à l'extérieur. De quel côté on est? Est-ce que Christ est le centre de moi? Est-ce que le moi est crucifié avec Christ? Est-ce que je peux dire, Dieu est ma priorité dans ma vie? Ce ne sont pas mes études, ce n'est pas ma vie, ce n'est pas ma famille, c'est Christ. Galates 5, verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié quoi? La chair. Avec ses passions et ses désirs. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair. Pas simplement le moi, mais le tout. Pas simplement mon être, mais aussi l'extérieur. Je ne fais plus ce que je faisais avant. Si je parlais d'une façon incorrecte, je ne le fais plus. Si j'allais avec ses pieds aux endroits que je ne devais pas y aller, j'arrête. Pourquoi? Parce que j'ai crucifié avec lui cela. Et quand on dit crucifié, ça veut dire quoi? Cloué sur la croix. On était au Mexique et j'étais pasteur de jeunesse. Il avait un jeune qu'on se voyait tout le temps, ou chaque semaine, pour faire un suivi. Et chaque semaine, lui venait me dire, non, j'ai un problème avec une fille, elle m'aime trop, moi aussi, mais je veux la laisser, mais je ne peux pas. C'est un problème de jeunesse. Bien sûr. Mais je dis, écoutez, on lisait ce même verset, il faut crucifier les choses anciennes. Si tu veux marcher avec Dieu, il faut que tu crucifies le passé. Et tu laisses pour Dieu. Il faut laisser le mort enterré. On ne peut pas le faire ressortir et marcher dans la rue avec ça. C'est fou. Ça pue. Et je dis, écoute, si tu reviens avec le même sujet après trois fois qu'on parle, ne reviens plus. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas avancer. Donc lui, des années plus tard, il me dit, écoute, tu sais Joël, pendant tout mon trajet jusqu'à chez moi, je t'ai haï. Parce que tu m'avais dit de réfléchir à laisser cette personne qui te fait mal. Et je ne voulais pas. Mais le soir là, Dieu m'a touché mon cœur. Et finalement, on a changé de sujet. Mais des fois, mes amis, on pense cette mort qui est là, enterrée, et on creuse son cœur et on cherche cette mort pour marcher dans la vie comme ça. Et la Bible ne dit pas ça. Il est crucifié, on est ressuscité avec Christ. Amen, il faut vivre comme ça. Je suis une nouvelle création. Les choses anciennes sont. Le mot, c'est passé. C'est pas présent, c'est passé. Tout est devenu nouvelle. Nouvelle. Galates 5, verset 16, dit ceci. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Une nouvelle créature, quelque chose de nouveau. On ne veut pas l'attacher. Donc, comment on fait? On prend les mesures nécessaires pour marcher selon l'esprit. Comment? Avec une lecture de la parole de Dieu. Tous les jours, si possible. Un verset. Une prière, pas simplement pour manger, pas simplement pour remercier Dieu pour la nourriture, mais aussi pour qu'il nous aide à vivre conforme à ce que lui, il veut. Je réfléchissais l'autre jour, et on ne peut pas vivre que des connaissances. On ne peut pas dire, oui, une pomme ou cette nourriture-là me fait du bien. Et rester avec ça. On va et on mange. Parce qu'on sait qu'il nous fait du bien. Avec la parole de Dieu, c'est exactement la même chose. Je ne peux pas dire, oui, la parole de Dieu, elle me fait tellement bien. Et le pas de plus. Pour dire quoi? Je veux le faire. Je veux agir. C'est une nouvelle création, cette nouvelle nature que Dieu nous donne, transforme toutes les actions du croyant par la puissance du Saint-Esprit dans une œuvre spirituelle. Si on suit le chemin de Dieu, si on croit que Dieu est bon, si on vit Dieu, tout ce qu'on va faire, ça devient spirituel à cause de la puissance du Saint-Esprit. Je reprends. Si on agit conforme à sa volonté, selon ce qu'est dit le livre de Jacques à la fin, on va faire les choses comme Dieu veut qu'on le fasse. Donc on marche de façon spirituelle. Pourquoi? Parce qu'on marche selon l'esprit. Ça c'est pourquoi c'est spirituel. Alors, c'est quoi les évidences de cette nouvelle création? Colossiens 1 à 3. On est là à côté. Colossiens 1 à 3 dit ceci. Pour l'apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous sommes de prier pour vous. Qu'est-ce quoi? On est une orientation céleste. On pense plus à nous, on pense aux autres. Vous voyez, il n'y a pas apôtre Christ par la volonté de Dieu. On parle que des choses divines. Notre vocabulaire change. Je ne parle pas d'un vocabulaire théologique. Je parle d'un vocabulaire saint, pur. Qu'il n'y a pas de mal, il n'y a pas de double sens quand on parle aux autres. Et là, ça m'amène à la deuxième évidence, dans 1 Jean chapitre 3, encore plus loin. 1 Jean 3, 16. Pas Jean 3, 16, mais 1 Jean 3, 16. Il dit ceci. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous, en parlant de Jésus. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour le faire. Je dois aimer à tel point mon frère et ma soeur en Christ que je suis capable même de donner ma vie. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là aujourd'hui? Malheureusement, je pense que ça dépend de la journée. Si on passe une bonne journée, un bon jour, oui, sans problème. Mais si j'ai eu une mauvaise journée, je ne sais pas. Peut-être. La seule personne qui a habité sur terre, qui vit encore, qui n'a pas eu de péché et qui a donné sa vie sans y réfléchir, c'était qui? Jésus. Est-ce que lui, il n'est pas digne d'être imité? Oui ou non? Oui. Alors, est-ce qu'on va lui imiter ou non? Jean, chapitre 14. On ne va pas tarder à finir. Jean, chapitre 14. Verset 12 jusqu'à verset 15. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Là, on va encore plus profond dans notre cœur. Est-ce qu'on aime Dieu? Oui. D'accord. Est-ce que votre vie le montre? Je ne sais pas si vous avez rendu compte, quand on est arrivé à l'église, il y avait une grande nuage qui passait par-dessus. Et tout à l'heure, voilà, on a beaucoup de lumière. Et ça éblouit un peu avec les rideaux comme ça, ça éblouit. Ça, c'est l'idée avec la vie chrétienne. Que quand on passe devant la personne, il soit ébloui. Quand on éblouit les autres. Et quelqu'un a dit, et je pense que c'est tout à fait juste, et on est tellement star, on est tellement maître. Je pense que vous avez déjà entendu cela. Le thermomètre prend la température du corps. Mais le thermostat, il fait prendre la température qui il veut. Quand on a un thermostat à la maison, on dit, je veux qu'il soit à 19 degrés. Donc, on va forcer le chauffage à arriver jusqu'à 19. Mais il y a un thermomètre qui marque la température. Alors, dans ma vie, je dois être quoi? Un thermostat. Celui qui, je dis, je suis chrétien. Voilà ma vie, voilà comment je rayonne. Et les autres vont dire, oh non, j'entends beaucoup de témoignages. On dit, des personnes qui arrivent à leur travail, ils disent, non, quand moi j'arrive, les personnes qui fument, ils sont bons. Ils savent que moi je ne fume pas, ils me respectent. Et s'ils sont en train de dire des gros mots, ils arrêtent tout de suite. Ça veut dire quoi? Il voit une différence. Il voit la façon que je parle. Il voit la façon que j'agis. Je suis un thermostat. Mais si je suis un thermomètre, je commence à parler comme eux. Et c'est plus moi qui met la température, ce sont les autres. Qui n'ont pas Dieu. Alors, Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Est-ce qu'on est une nouvelle création? Si vous êtes sûr, amen. Si vous n'êtes pas sûr, il faut être sûr. Pourquoi? Parce qu'un jour, Dieu reviendra chercher ceux qui ont voulu croire et lui accepter. Mais pourquoi? Parce que la colère de Dieu aussi arrive. C'est marqué dans la parole de Dieu. Mais Romains 5, 9 dit quoi? Parce qu'on est déjà justifié, on va être aussi sauvé de sa colère par sa vie. Donc il y a une colère qui arrive. Mais ce n'est pas à cause de la colère qui arrive qu'il faut être sauvé. Il faut être sauvé parce qu'on est pécheur. Ce n'est pas la peur qui nous fait connaître Dieu. C'est Dieu qui se révèle. Dieu qui se révèle. Si quelqu'un est en Christ, une nouvelle création, les anciens sont passés. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, dans notre vie, quelles sont les choses qui ne sont pas encore nouvelles? Quelles sont les choses qui sont encore là et ne sont pas passées? Quelles sont les choses qui restent encore dans le présent et qui nous entraînent encore dans le péché? Je ne vous connais pas. Mais je sais que nous tous, on a des domaines dans notre vie chrétienne qu'il faut qu'on revoie. Mais là, ce n'est pas moi de vous dire quoi. C'est à vous de trouver. C'est à nous de laisser l'Esprit Saint aller de le plus profond de notre cœur. Dans ce placard qui est bien au fond de nos cœurs, que la clé, on n'a que nous qu'on a la clé, il faut donner la clé. Des choses cachées, que personne ne sait, mais que Dieu veut. Avec la confiance, c'est quoi? Qu'on est une nouvelle création. Que l'Esprit Saint va faire que ces choses qui sont cachées soient en premier effacées, qu'ils soient guéris, et qu'on peut vivre avec joie dans ce monde de tristesse et en ténèbres. Prions ensemble. Seigneur, on est plus que époustouflé, Seigneur, de voir ce que tu as fait en nous. Seigneur, on ne peut même pas imaginer tout le travail, Seigneur, interne et spirituel que tu as fait dans le moment de notre salut. Je te remercie pour toutes les choses que tu nous as données, en commençant par pour notre vie, Seigneur, avec toi. Merci pour ta résurrection qui nous donne cette espérance de vivre avec toi pour l'éternité. Merci pour ton Saint-Esprit qui nous a mis, Seigneur, dans ton cœur, en toi, qui fait partie d'un cœur, Seigneur, que tu guides en tant que tête, ton Église. Je te remercie parce qu'on a été scellés, Seigneur, on a ces garanties que nous sommes tes enfants. Je te remercie pour toutes les choses, mais Seigneur, nous te demandons, avec humilité, Seigneur, que tu nous aides à voir les choses dans nos vies qui ne vont pas. Et que tu ouvres, Seigneur, comme tu dis, qu'on s'était lu ce matin, Seigneur, que tu ouvres notre intelligence. Et on peut voir, tout voir, Seigneur. Sur quelle grâce, Seigneur, que nous avons en toi. Simplement, Seigneur, nous te demandons que cette semaine qui commence, qu'elle soit pour te glorifier, Seigneur, dans tout ce que on fera. Ce que tu gardes nos bouches, ce que tu gardes nos pensées. Et Seigneur, que ce qu'on fasse, le fasse pour toi. Merci pour ton amour, Seigneur, merci pour ta grâce. En ton nom. Amen.